Bible, comment je te lis aujourd'hui, c'était le thème de la 56e rencontre œcuménique de Belloc qui s'est déroulée le 1er mai 2025 au monastère Sainte-Scolastique des Bénédictines à Urte. Aujourd'hui, nous écoutons l'intervention d'un bibliste, le père Michel Garat.
Merci Bernard et à toute l'équipe œcuménique de la région 40-64. Parfois, il y avait des gens du 65 aussi. Oui, effectivement, j'ai eu plaisir à animer cette équipe œcuménique. On a prié et salué tout à l'heure la mémoire de Serge, mais je me souviens d'autres personnes qui faisaient partie de nos équipes de œcuménique et qui sont déjà dans la maison du Père. Alors, je reconnais beaucoup de visages. J'ai plaisir à saluer les nouveaux visages. Et parmi les plus permanents de l'œcuménisme, ce lieu, le monastère de Belloc, des pères et des sœurs aujourd'hui, ce monastère est à l'origine de premier accueil, de première hospitalité, on a employé le mot tout à l'heure, de l'œcuménisme, qui était une question toute nouvelle dans les années 60, avant le Concile Vatican II, et déjà donc le pasteur d'Orthès, et puis les pères d'ici, et puis le professeur du séminaire aussi, étaient engagés dans l'œcuménisme. Alors je ne sais plus trop si c'est la 56e édition, moi j'aurais tendance à penser plutôt à 65e, 66e, mais il est vrai qu'il y a eu des années sans 1er mai. Alors, donc, pour entrer dans le sujet, c'est évidemment le même thème qui nous réunit, Corinne Lanoir, que nous venons d'entendre avec plaisir, et puis moi-même, sans doute, vous allez retrouver pas mal de choses, mais j'aime beaucoup les perspectives ouvertes par Corinne. Peut-être que nous les retrouverons et peut-être que les questions de tout à l'heure permettront d'aller encore plus loin, sans doute. Alors, Bible, comment je te lis aujourd'hui ? Je me suis laissé interroger par l'intitulé de la question, qui n'est pas courante. Bible, comment je te lis aujourd'hui en plus. Et la question porte sur le comment et non pas sur le quoi. Elle suppose que l'on est déjà lecteur familier de la Bible, parole de Dieu pour les croyants. Mais est-ce si sûr que nous soyons des familiers ? Tout le monde sait que la Bible est le livre le plus vendu, le plus distribué au monde. Mais qui prend le temps de lire la Bible ? Par expérience, je sais que chez les catholiques, il est rare de se rendre à une réunion avec une Bible. Peut-être est-ce plus facile maintenant, plus commode en tous les cas, aujourd'hui, avec l'usage des smartphones et d'Internet. Mais j'en doute toujours parce que ce n'est pas encore une habitude chez nous. Et notre réflexe, ce n'est pas encore celui-là. On verra cela tout à l'heure, quand nous évoquerons une exposition que nous avions créée de façon œcuménique aussi à la crypte Sainte-Eugénie à Biarritz qui portait sur Saint Paul. Mais entrons dans la réflexion à l'aide d'une question posée par Jésus au légiste qui lui demande ce qu'il faut faire pour accéder à la vie éternelle. Voici qu'un légiste se lève et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'est-il écrit ? Comment lis-tu » Et ça continue avec le double commandement de l'amour, « Aimer Dieu, aimer son prochain. » Et ça continuera avec l'exemple du Samaritain pour illustrer le prochain et sans doute la prière du Seigneur, de notre Père, pour dire comment, quelle est la juste relation d'amour avec Dieu, le Père. Donc la question c'est, dans la loi qu'est-il écrit, comment lis-tu ? C'est une très bonne question, elle va nous guider. Elle porte non seulement sur le quoi, que lis-tu, qu'est-il écrit, mais sur le comment lis-tu ? Comme s'il y avait plusieurs portes d'entrée pour lire la parole de Dieu. Puis dans un deuxième temps, plus loin, nous verrons deux passages de la Bible. Ce ne sont évidemment que des touches rapides qui pourront se prolonger par des questions à la suite. Mais réfléchissons d'abord, premier point, sur le comment je te lis, en écho à la question de Jésus au légiste. Tout d'abord, la question porte sur le lecteur. Je te lis. C'est moi, en effet, qui lis la parole de Dieu. Et je lis forcément avec des lunettes, c'est le cas aujourd'hui, plus ou moins ajustées, c'est-à-dire avec une culture, une tradition, une communauté chrétienne. Et la fameuse question qui m'avait intéressé déjà depuis le début, c'est « Quand je lis, qui lit ?» Je lis dans une culture. Personnellement, j'aime lire l'évangile de Luc, car Luc raconte bien, à mon goût, mais à notre goût aussi d'occidentaux. Nous sommes les héritiers de la Grèce, et Luc écrit dans un bon grec, à la manière grecque. Il raconte beaucoup d'histoires, faciles à mémoriser, la naissance à Bethléem, Jésus au temple au milieu des docteurs de la loi, les nombreuses paraboles, dont celle sur le fils prodigue, les disciples d'Emmaüs, etc. Mais je lis dans une tradition. Pour ma part, c'est la tradition catholique. Je viens de citer la parabole du fils prodigue. Est-ce juste ? Le père a deux fils. Dans la parabole, il s'adresse à l'un et à l'autre. Mais nous avons privilégié le prodigue, surtout dans les célébrations du pardon chez nous. De même, la conversion de saint Paul, ça a tellement été reproduit en peinture, notamment dans notre Occident, que l'on dit, si sans avoir lu, on nous interroge sur le chemin de Damas, que Paul est tombé de cheval. Or, vous le savez évidemment, il n'y a pas de cheval dans le récit que nous en fait saint Luc. On a tellement représenté la scène du fruit défendu, dont a parlé Corinne Lanoir tout à l'heure aussi, qu'on ne voit plus que cela, qu'on n'entend plus ou qu'on ne se souvient plus que de cela, sans même prendre le temps de lire l'immense récit qui commence au chapitre 2, verset 4, 4b même, jusqu'à la fin du chapitre 3. Ce qui nous est dit de quoi ? De la création de l'humain, de ce que deviendront hommes et femmes à la fin. Et cet immense récit peut se répartir en quatre scènes qui sont également importantes l'une et l'autre, du début à la fin, pour entrer dans l'histoire de quoi ? L'histoire de l'émergence de l'être humain tout au long du récit. Qu'est-ce que c'est qu'être homme, homme et femme ? Qu'est-ce que c'est qu'être humain ? Selon l'auteur du deuxième récit de la création. Alors nous comprenons un peu mieux la question, quand je lis, qui lit ? Il y a tout un travail à faire sur soi, pour donner sa chance au texte biblique, de dire et de produire du neuf. Le texte n'est pas épuisé par ce que je crois en savoir. Il est disponible pour toute autre lecture nouvelle. On l'a entendu tout à l'heure avec l'expérience au Nicaragua. Comme une source, peut être lue la Bible comme une source que l'on n'épuise pas quand on y boit. Et puis non seulement je, mais te. Comment je te lis ? Lire la Bible, c'est la première chose nécessaire. Il nous faut prendre le temps de lire les textes mêmes, sans nous contenter du thème dont ils sont censés parler. Ça, c'est notre habitude occidentale et en française en particulier, de résumer tout par un mot ou un thème. Patiemment, il faut commencer par lire, relire, et pourquoi pas mémoriser, laisser le sens circuler. Alors seul ou avec d'autres, cela dépend, les deux sont nécessaires. Alors qu'est-ce que j'attends de la lecture ? D'abord, peut-être de savoir ce que ça raconte. Je ne connaissais pas personnellement l'histoire d'Aksa, Othniel un peu plus, mais cet oubli est déjà révélateur. Savoir ce que ça raconte. On peut lire la Bible comme une histoire qu'il faut connaître. C'est peut-être difficile de le faire seul, mais j'en connais parmi ceux qui s'approchent de l'Église depuis ce printemps ou avant le printemps. Eh bien, il y en a un qui travaille dans les Landes d'ailleurs, mais qui habite chez nous, et qui s'est mis à lire la Bible par lui-même. Il a acheté la Bible de Jérusalem. Très bien. Donc, il a commencé par Matthieu, tu dis, c'est peut-être pas l'évangile le plus facile. Ah, mais il m'a dit, c'est le premier des évangiles. Ah, ben oui, ça suffit. Ça suffit. Donc, commence par Matthieu. Et ensuite, la deuxième fois que je le vois, il était dans les psaumes. Il dit, ah, j'aime beaucoup le psaume, je sais plus lequel. Enfin bon, peu importe. Et on a lu ensemble ce texte-là. Donc, il faut commencer par lire. Pourquoi pas? Et se laisser dépayser, se laisser interroger aussi. Connaître. Et puis ensuite, on peut approcher la Bible comme objet d'étude, avec des clés de lecture. Voilà, on en a entendu tout à l'heure, des points de vue, des questions nouvelles que l'on peut poser au texte. Pourquoi faire? Pour ouvrir le sens des Écritures. Et où est-ce que ça peut se faire? Dans les cercles d'études, dans les groupes bibliques, dans le cadre d'une formation, et pourquoi pas à l'antenne de théologie, bien sûr. Par exemple, l'attention que l'on pourra porter sur un passage de la Bible qui tisse le sens à partir d'autres passages de la Bible. Tout à l'heure, nous avons entendu Luc 4. Eh bien, effectivement, on cite Isaïe, mais de quelle manière? Et donc, on pourra s'intéresser à la manière dont, à la synagogue, on ouvre la Bible et on cite la Bible. C'était Isaïe, mais comment on cite Isaïe à ce moment-là? Donc, on peut se poser cette question, c'est une question seulement parmi d'autres, mais comment les textes sont des tissages, des mémoires de textes qui ont précédé, de façon de poser les questions, de réponses qui ont été déjà données, mais qui sont à nouveau ouvertes, parce que le texte reste ouvert et toujours disponible pour nous aujourd'hui. Et enfin, on peut lire la parole comme une source d'inspiration pour notre prière, pour notre vie. Voilà. Et si on résume les quelques aspects de lire, étudier, méditer, vivre, mais ça constitue ce qu'on a appelé la lecture savoureuse des Écritures, la lectio divina. Et enfin, un troisième aspect dans cette question, quelle Bible je lis? Alors j'ai pris la peine d'en amener quelques-unes là. Quelle édition, quelle traduction? Il y a des traductions qui sont davantage à la portée des lecteurs. Par exemple, cette édition, là où nous avons lu tout à l'heure Luc 4, c'est un Nouveau Testament en français courant, et illustré. Et j'ai gardé ceci parce que c'était mon premier ouvrage de travail avec les 6e, 5e, quand j'étais aumônier de l'enseignement public à Orthès. La méthode que nous avions à l'époque suggérait d'ouvrir la Bible et de colorier les personnages, les verbes, etc. Donc j'ai repris ça 50, 40 ans après peut-être, et j'ai vu qu'il y avait effectivement des couleurs. Donc quelle est la traduction dont on va se servir? Mais celle-là, elle est pratique, et puis une Bible qui, entre guillemets, vaut beaucoup parce qu'elle représente, mais ne coûte pas cher. Et donc on n'a pas peur de crayonner, enfin, etc., s'en servir. Donc, quelle est traduction? Traduction donc en français courant, mais aussi, bon, j'avais été étonné pour l'une de nos expositions sur la Bible à la crypte Sainte-Eugénie, eh bien que nos amis évangéliques nous présentent la Bible des surfeurs, par exemple. Voilà. Donc illustré par évidemment ceux qui les préoccupent et puis ceux qui sont performants dans cette discipline. Bon, donc ça dépend quel est le public. La traduction sera parfois très large, toujours compréhensible pour un public donné, les âges, mais aussi la lecture liturgique, qui est encore différente. Elle est faite pour être proclamée, donc entendue et comprise assez rapidement, même si ce n'est pas une traduction serrée. Alors effectivement, il y a des traductions plus serrées, proches des langues d'origine, recommandées pour l'étude, comme la Bible de Jérusalem, que je viens de citer, ou bien la traduction œcuménique de la Bible. Quelle Bible je lis? Quelle Bible je lis? Évidemment, vous venez de l'entendre, ça dépend aussi si je suis catholique, réformé, orthodoxe. Quel est le contenu de la Bible que je lis? La dernière édition de la Tobe, celle-ci que j'ai devant les yeux, de l'an, enfin de 2010 à peu près, réunit les trois traditions chrétiennes augmentées, j'allais dire. Le cœur de l'Ancien Testament, ce que nous appelons l'Ancien Testament, comprend les livres retenus par la tradition rabbinique, reprise par les églises de la Réforme à sa suite. Et puis il y a des livres retenus dans une deuxième sélection, depuis la Septante, qui font partie intégrante de l'Ancien Testament pour les catholiques. Ils sont appelés deutéro-canoniques, d'un deuxième canon des Écritures. Mais nous considérons cette deuxième partie comme faisant partie du canon des Écritures. Nous les appelons deutéro-canoniques. Peut-être que les protestants les appellent deutéro-canoniques. Enfin, donc, où ils sont considérés peut-être par les Juifs comme apocryphes, peut-être ? Non ?
Enfin, c'est encore un peu différent.
Mais... Un peu différent. Donc nous aussi, nous considérons d'autres textes comme apocryphes. En tous les cas, enfin, donc, plutôt au terme de cette sélection de textes à produire en commun, catholiques, orthodoxes et protestants, on y a ajouté, en 2010, six livres qui sont uniquement connus, vénérés dans la tradition orthodoxe. Voilà, je pense simplement au psaume 151, par exemple, c'est sans doute le plus connu, mais il y a le 3e, 4e Esdras aussi, puis il y en a bien d'autres. En tout cas, ils sont tous dans cette Bible que j'ai sous les yeux. Voyez donc, quelle Bible je lis, bien, ça dépend un peu du public, ça dépend aussi de ceux qui veulent faire connaître la Bible, et je crois qu'il faut saluer la tradition œcuménique de la Bible, surtout en ce lieu, mais dans l'Église universelle aujourd'hui aussi. Maintenant, j'aborde le deuxième point. Comment lis-tu ? Comment lis-tu ? La réponse à cette question se fera par deux exemples à partir de textes de la Bible. L'un a été déjà évoqué tout à l'heure. Comment lis-tu ? Avec quelle précaution ? D'abord, il faut tenir compte de la distance qui nous sépare du texte de la Bible. Le monde de la Bible n'est pas le nôtre aujourd'hui, il y a un fossé culturel. Et même à l'intérieur de la Bible, il y a plusieurs mondes qui se côtoient. Si Isaïe réunit 66 chapitres, il y a plusieurs mers, plusieurs siècles qui sont balayés par cet immense livre d'Isaïe. La Bible, Ancien et Nouveau Testament, a été écrite sur plusieurs centaines d'années. Alors il est nécessaire d'avoir des clés de lecture selon ce que l'on attend de la lecture. Et tout à l'heure, nous avons eu des portes d'entrée qui sont évidemment très, très importantes et utiles aujourd'hui. Alors un premier exemple se fera à partir, mais ça sera rapide, de Genèse 2 et 3, c'est-à-dire le second récit de la création dans l'ordre de l'Écriture. Vous connaissez ce récit ? Il parle de la création, surtout de l'humain. En réalité, c'est le deuxième récit, placé en second. Par qui ? Par ceux qui ont procédé à la sélection finale des textes, environ au 4e siècle avant Jésus-Christ. Ils ont préféré mettre en premier le poème de la création en 7 jours, qui s'achève au 7e jour, jour du sabbat, jour du repos du Seigneur. Mais déjà, je viens d'employer deux mots, un récit, 2 et 3, un poème, Genèse 1. C'est important, et je le dis pour nous, l'Église catholique a reconnu dans une déclaration romaine de 1943 que la Bible utilisait des genres littéraires différents pour exprimer telle ou telle réalité de la parole de Dieu. On n'approche pas de la même manière un récit et un poème. La première page de la Bible en Genèse 1 est un beau poème avec les ressorts propres au poème, la couleur des mots, les répétitions, le rythme qui ici est souligné par les répétitions. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour, deuxième jour. Mais Genèse 2 et 3 racontent une deuxième fois la création du point de vue de l'humain. Ce deuxième récit nous est également familier. La scène la plus célèbre dans notre imaginaire, c'est celle du fruit défendu, lorsque l'interdit de manger de tel arbre est levé par la ruse du serpent. Le fruit défendu est mangé de la même manière par la femme et par l'homme, l'Adam, l'humain. Dans notre culture, héritée de siècles avant nous, nous nous souvenons surtout de ce passage. En réalité, ce n'est que la troisième scène, le troisième tableau, la troisième séquence d'un long récit qui commence, vous le savez maintenant, au chapitre 2, au verset 4b. Alors comment lire Genèse 2? Je résume énormément. D'abord, en donnant sa chance au texte, en le lisant en entier. Et puis, en délimitant le mieux possible le récit dans son ensemble. Où commence-t-il? Où s'achève-t-il? Comment ça commence? Comment ça se termine? C'est important car ce qui est raconté permet de comprendre comment on passe d'un moment à un autre, d'un état à l'autre, dans chacune des scènes, d'égale importance pour ce qui nous est dit depuis le premier verset jusqu'au dernier de ce récit. Et puis ça passe par l'étude, l'observation des personnages, les répétitions, les oppositions. On voit comment le récit passe d'un moment à un autre. Ainsi. Le premier but, ou plutôt le seul but, assigné par le Seigneur Dieu au tout début. Le Seigneur Dieu, j'ai bien dit le Seigneur Dieu, Yahvé Elohim. Premier but assigné par ce récit, c'est de créer un Adam, A minuscule, pour cultiver le sol. Et il n'y a pas d'Adam pour cultiver le sol, c'est un manque. À la fin, oui, il y aura un Adam, et même deux, puisque l'Adam sera devenu Ish et Isha, homme et femme. Pourtant, à la fin, on constate que le programme sera le même. La mission confiée à l'Adam, devenu Ish et Isha, la mission est la même, cultiver le sol. Ce qui veut dire que la création de l'Adam, puis son passage par le jardin, l'Éden, était nécessaire pour cela. Alors on regardera en quoi et comment cet Adam acquiert les compétences nécessaires pour cultiver et garder le sol. Je résume. On voit durant ces quatre scènes l'apparition de l'être humain, seul, devenu couple, ayant reçu une double loi, la loi de l'alimentation, de tout arbre tu pourras manger sauf, et la loi de la conjugalité, c'est pourquoi l'homme quittera, etc. Puis on arrive effectivement à cette troisième scène qui se passe en l'absence, notez-le bien, du Seigneur Dieu. L'absence du Seigneur Dieu, qui ne réapparaîtra qu'à la quatrième scène. On parle, oui, mais on parle de qui? D'Élohim, et non pas de Yahvé Elohim. De Dieu, et non pas du Seigneur Dieu. Seigneur Dieu qui est présent dans les scènes 1, 4, 2 et 4, mais pas dans la troisième. Cette scène que nous avons privilégiée dans notre Occident, celle de l'interdit bravé, donne de l'humain une claire conscience de ce qu'il est. Il se sait nu et vulnérable. Il peut se laisser tromper par d'autres voies que celles du Seigneur Dieu. Cependant, grâce à cela, si l'on peut dire, il a acquis la connaissance, la conscience et la conscience de sa nudité. Je résume beaucoup, évidemment. En fin de compte, tous deux, devenus êtres humains, Adam et Ève, cette fois-ci à la fin avec des majuscules, seront expulsés vers l'extérieur pour cultiver le sol. Le but n'était donc pas d'y rester dans le jardin, mais de devenir ensemble responsable d'une mission confiée à exercer par la suite. Si l'on prolonge, on peut en faire une lecture actualisée et croyante, en se demandant si l'histoire ne se répète pas, si on ne laisse pas trop vite de côté, plutôt, la voix du Seigneur Dieu pour en écouter d'autres, ou bien pour se prendre pour des dieux. Que veut dire aujourd'hui la responsabilité que le Seigneur confie? Celle de cultiver le sol, c'est-à-dire la responsabilité de sa création et de notre planète, ajouterions-nous aujourd'hui, au moment où d'autres voix suggèrent de continuer à exploiter sans retenue toutes les richesses du sol, du sous-sol, du fond des océans. Et puis, la lecture peut permettre d'entrer soi-même en dialogue avec le Seigneur Dieu, c'est-à-dire avec la voix qui se fait entendre, la voix du jardin, qui demande encore aujourd'hui « Où es-tu ? Où en es-tu ?» de la mission confiée. Le dialogue par le texte peut devenir prière. C'est ce qu'on peut appeler une lecture croyante. Après la lecture appliquée d'un texte de la Bible, dialoguer avec Dieu à partir de ce qui apparaît du texte et puis prier ou contempler. Celui qui par sa voix vient à notre rencontre dans le souffle du soir pour se laisser travailler par sa parole, s'ajuster à sa parole et la vivre. Comment honorer la responsabilité de cultiver le sol, c'est-à-dire d'être humain aujourd'hui, sauvegarder la planète, etc. Voilà pour le premier exemple. Un deuxième exemple pris dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, chapitre 8, versets 26 à 40. Luc aime raconter, on a plaisir à lire ce qu'il nous raconte, et les Actes, comme l'Évangile, sont l'œuvre de quelqu'un qu'on appelle Luc, même si peut-être il peut y avoir des différences entre plusieurs moments d'écriture. Mais enfin, c'est Luc qui nous livre l'Évangile, le troisième Évangile, et le livre des Actes, appelé le livre des Actes des apôtres. Mais on pourrait aussi dire que c'est l'histoire de la première Église. La première Église. Comment l'Esprit reçu à la Pentecôte pousse les apôtres à sortir de chez eux, de leur ville, de leur pays, pour annoncer la parole à toutes les nations. Après la mission à Jérusalem, les annonciateurs de la bonne nouvelle se font plus nombreux. 7 ont été choisis pour, et envoyés pour aller dans les alentours de Jérusalem, en Samarie, dans le pays de Judée. Le groupe augmente des chrétiens. Et l'Esprit, un acteur très important dans le livre des Actes avec la parole, l'Esprit suggère à Philippe, l'un des 7, de rejoindre le char qui a quitté Jérusalem, qui se dirige vers Gaza, en route vers l'Éthiopie lointaine, avec à son bord un fonctionnaire de la reine Candace. Il revient de Jérusalem, sans doute après le pèlerinage de Pâques. Ce doit être un craignant Dieu, c'est-à-dire un païen sympathisant de la tradition d'Israël. Voilà, on pourrait lire ce passage, acte 8, verset 26 à jeudi. Mais ensuite, il y a peut-être quelque chose que je voudrais vous lire au verset 32 et 33, si j'y arrive. Donc, 32 et 33, 31 d'abord. Voilà. Comprends-tu, c'est Philippe qui demande au fonctionnaire, comprends-tu vraiment ce que tu lis ? Et comment le pourrais-je, répondit-il, je n'ai pas de guide. Et il invita Philippe à monter s'asseoir près de lui, et voici le passage de l'écriture qu'il lisait, comme une brebis que l'on conduit pour l'égorger, etc. On reconnaît Isaïe, le serviteur souffrant. Et s'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit, je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ? Et le récit continue. Philippe lui pose la question, « Comprends-tu ce que tu lis ? Comment le pourrais-je si je n'ai pas de guide ?» Le texte existe, c'est le passage du rouleau d'Isaïe, mais le sens n'est pas clair, alors le fonctionnaire pose la question, « De qui parle le prophète ? De lui ou de quelqu'un d'autre ?» On apprend plusieurs choses pour la question qui nous intéresse ce matin. Le besoin d'être guidé dans la lecture. Le texte fait sens quand quelque chose se passe. Lorsque le lecteur se sent impliqué, c'est le cas de ce fonctionnaire, on ne l'a pas présenté, mais il revient de Jérusalem, sans doute qu'il est intéressé par ce qui s'y passe et par la parole de Dieu, par Dieu lui-même. Il désire se rapprocher de cette tradition. Et il est impliqué dans l'acte de lecture qu'il fait. Et le texte fait naître en lui une question, puis une autre, etc. Et Philippe sera le guide demandé. De façon plus habituelle pour nous, ça pourra être les notes de la taupe, ou bien des commentaires, ou bien des groupes bibliques qui sont aussi des guides. Autrement dit, il est difficile d'entrer dans le sens d'un texte sans un dialogue guidé. Ici, Philippe tient le même rôle que Jésus, dans la narration de Saint-Luc, hein, le même rôle que Jésus sur le chemin quand Jésus rejoint les disciples d'Emmaüs. Avec le même effet, notre cœur n'était-il pas tout brûlant tandis qu'il nous expliquait les Écritures ? Suite à l'enseignement, l'eunuque demandera à être baptisé. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? La parole de Dieu et le baptême le laissent, et c'est un effet que l'on peut retenir, dans la joie. Philippe peut poursuivre sa route, le guide disparaît, à l'imitation de Jésus qui disparaît aux yeux des disciples d'Emmaüs. Alors comment lis-tu ? Le texte, ou plutôt le lecteur, devient chercheur. La lecture fait poser des questions au lecteur et le transforme en chercheur. La question explicite que pose l'eunuque, c'est « qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Mais le lecteur aujourd'hui que nous sommes entend même d'autres questions. D'abord celle du baptême, pour la recherche, nous sommes aussi des chercheurs. La question du baptême, en quoi consiste-t-il le baptême ? Quelle préparation est-il nécessaire ? Mais aussi comment le baptême se passait dans la première Église ? La recherche s'étendra à l'ensemble de l'Évangile, mais aussi aux lettres de Paul qui nous parlent largement du baptême. Et puis, la lecture attentive de ce récit nous fait remarquer une particularité de ce texte, c'est qu'il y manque, dans le texte que je viens de lire, le verset 37. Alors, ce verset 37, on le lit uniquement en note. 37. Ce verset est attesté par des témoins, surtout de la tradition occidentale. C'est trop technique d'expliquer tout cela. Mais voici ce qu'il dit, la substance du verset est la suivante. Ce serait donc Philippe qui intervient pour dire ceci. « Si tu crois de tout ton cœur, c'est permis. » Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?« Si tu crois de tout ton cœur, c'est permis. » L'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Voilà un verset qui est, en somme toute, ce que nous résumons dans le dialogue avec les baptisés, le credo de la nuit de Pâques, par exemple, certes réduit. Mais ce verset n'est pas, semble-t-il, dans le texte. C'est un véritable petit credo. Je fais une petite parenthèse pour dire que nous sommes au 1700e anniversaire du credo de Nicée-Constantinople. Ça sera la précision de la foi qui sera retenue dans l'Église et l'Église universelle catholique. Mais il a existé des credos depuis le début et on a rappelé ces temps derniers que le premier credo était formulé par un sigle, une image, celle du poisson, qui est le résumé du credo primitif. Jésus-Christ, Fils du Dieu Sauveur, les premières lettres du mot ictus en grec, ictus. Voilà. Et donc, que ce credo primitif soit inséré dans le texte de façon très très précoce, sans doute au deuxième texte, est un bon témoignage du comment se déroulait le baptême. Et donc, si tu crois, eh bien, je crois que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Voilà un véritable petit credo. Du coup, la question sera la suivante. Le texte que nous lisons, quelle année l'histoire ? C'est une question qui passionne aujourd'hui. Je vais parler un peu plus loin parce que ça résonne. Bon. Comme cela, on m'entend aussi ? Ah ben alors c'est mieux. Du coup, la question sera, le texte que nous lisons, quelle année l'histoire ? C'est une question qui passionne beaucoup notre 21e siècle. On est plutôt dans une variété de textes qui forment une symphonie. Le texte dans les premiers siècles a résonné différemment selon les lieux, selon les communautés, selon les églises où il a été accueilli et transmis. La Bible en ses traditions, c'est un terme technique, la best, la Bible en ses traditions, qui est l'œuvre majeure de l'école biblique et archéologique française à Jérusalem depuis les années 2000. Ça fait plus de 25 ans qu'il s'y attelle. Donc la Bible en ses traditions tente de rendre compte de la polyphonie du texte biblique, des témoins multiples, des commentaires divers et variés de chacune des grandes traditions, et de l'impact dans la culture par l'art. Et pendant que Corinne parlait, j'ai écrit un petit peu avant, mais je me laissais passionner toujours par les trois vitraux que vous ne voyez pas, mais que je contemplais, et qui sont aussi une présentation en trois tableaux de l'Ancien et du Nouveau Testament, de la création jusqu'à l'Église, de l'Esprit qui planait sur les eaux jusqu'à l'Esprit de Pentecôte, et qui se termine même par le symbole qui nous occupe, nous, catholiques, cette année 2025, l'espérance, l'encre de l'espérance, qui est une image de la lettre aux Hébreux en particulier. Voilà. Et donc, l'art est une lecture, évidemment, et une lecture plurielle, diversifiée selon les traditions. Il faut passer par l'art, c'est important. Ce que fait la Best aujourd'hui, sur n'importe quel verset, eh bien, vous aurez des pans de textes et de culture qui vous seront servis comme sur un plateau, presque. Alors une autre question que soulève le récit, c'est l'origine du fonctionnaire. Pourquoi Luc nous raconte ce récit qui met en scène un Éthiopien ? Et si on lit, je crois que Daniel Margera l'a fait beaucoup mieux que moi, si on lit l'ensemble de l'œuvre de Luc, Évangile et Actes, mais surtout les Actes, on s'aperçoit que Luc cite dans le livre des Actes une belle représentation du monde habité, de la terre habitée de son époque. Des peuples qui habitaient sur cette terre habitée précisément, de l'Oïkouméné. Il ne nous dit rien, Luc, de l'évangélisation de l'Éthiopie, pas grand-chose de l'Arabie, ni de la Mésopotamie, mais par de telles petites touches, de manière elliptique, il suggère que l'Évangile a atteint les extrémités de la terre, et pas seulement Rome, qui est pourtant le cœur visé par la première mission. Luc fera s'arrêter son récit des premiers temps de l'Église à Rome précisément. Mais on sait que l'Évangile était présent en Égypte, en Éthiopie, en Mésopotamie. C'est la légende qui va relayer cela, mais de façon elliptique, nous l'avons présent dans les Actes des Apôtres. Et ainsi, vous voyez que la recherche est infinie. Elle reste, cette parole de Dieu, une bonne nouvelle. Si, à la question de Philippe, comprends-tu ce que tu lis ? Le lecteur peut éprouver la même joie que celle ressentie par le fonctionnaire, celle d'une plénitude. La recherche n'est pas toujours aussi joyeuse, certes, elle peut être même stérile, tous les savants sauront vous le dire. Mais il est important alors de faire la différence entre la lettre et l'esprit de l'Écriture. Pour le lecteur de Luc et du Nouveau Testament, l'esprit est celui de la parole, P majuscule, du Verbe de Dieu, comme le dit Saint Jean. Une personne vivante, ressuscitée, la résurrection devient la clé des Écritures pour nous. C'est la dernière clé, que nous livre l'épisode du fonctionnaire baptisé. L'Écriture est relue à la lumière du ressuscité qui illumine la lettre de l'Écriture. L'Écriture parle bien de celui qui est bonne nouvelle. Alors en conclusion... Bible, comment je te lis aujourd'hui ? La Bible est un livre polyphonique. Plusieurs siècles d'écriture, plusieurs mains, parfois pour un même livre. Plusieurs témoins du texte qui ne disent pas toujours la même chose. Plusieurs évangiles qui sont parfois très différents les uns des autres. Comment accepter, intégrer cette polyphonie sans être bousculé au point de refermer trop vite le livre ou la recherche ou la lecture croyante. Comment ? Eh bien d'abord en lisant cela, ou plutôt en tenant compte de cela, comme une chance. Des croyants, en divers siècles, ont exprimé leurs prières, leur histoire, et surtout celle de la relation d'un peuple avec Dieu, dans son itinéraire, qui va d'un commencement vers autre chose, qui va d'une sortie pour le traverser et pour une entrée hypothétique. Songeons que jamais Moïse n'a posé les pieds dans la terre promise pour laquelle il a conduit son peuple. Ça nous est raconté en 5 livres, mais il n'y a pas mis les pieds. Donc effectivement, ce n'est peut-être pas l'entrée, ou plutôt l'entrée est toujours promise. La terre est toujours promise, en fait. Donc comme une chance, ce sont des croyants qui ont exprimé la relation qu'ils nourrissent avec leur Dieu et qui devient notre Dieu. Et cela dans plusieurs cultures. Le monde de la Bible hébraïque, mais aussi le monde grec des Septante, qui est celui de Luc et celui de Théophile, à qui il adresse l'œuvre des Actes. À nous de savoir lire avec, à l'aide de guides ou de clés de lecture, et à lire en église pour nous. Alors comme une chance. Comme une chance aussi, parce qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour dire Dieu, pour dire l'alliance avec le Dieu d'Israël, pour comprendre le Dieu que Jésus nous révèle comme Père. Il y a plusieurs chemins pour accéder à la vérité, c'est-à-dire pour accéder au vrai Dieu, épuré de toutes les idéologies, de nos représentations qui enferment trop vite dans une identité. Dieu est au-delà de toutes nos représentations. Songeons au titre, au seul titre, qui n'en est pas un, que la tradition israélite adresse à Dieu. Il appelle Adonai pour ne pas attenter à l'indicible, l'indicible Yahvé. La question sera alors la suivante, s'agissant des évangiles par exemple, que veulent me dire aujourd'hui, que veulent nous dire aujourd'hui de Jésus, chacun des évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, sans faire trop vite un résumé qui ne serait que notre évangile, c'est-à-dire le mien. Comme une chance encore, car le monde, et je termine, hein, comme une chance encore, car le monde où je vis n'est pas plus simple que celui des écrivains de la Bible. Mais la parole interroge ma foi, ma présence au monde, ma présence à Dieu aujourd'hui. Comme une chance enfin, car elle est porte d'accès à la parole, c'est-à-dire au verbe de vie. Merci.
Bible, comment je te lis aujourd'hui, vous venez de suivre l'intervention du Père Michel Garat, bibliste, intervention enregistrée le 1er mai 2025 lors de la 56e rencontre œcuménique de Belloc qui s'est déroulée au monastère Sainte Scolastique des Bénédictines à Urte.